Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, on va débriefer évidemment la Ligue 1. On retrouvera Elton Mokolo pour nous parler du projet de l'Olympique de Marseille, droit dans le mur. On lui posera la question, on parlera aussi un petit peu de Lille et évidemment de l'annonce de Kylian Mbappé et de son départ à la fin de saison du Paris Saint-Germain. On ira ensuite en Allemagne pour parler du Bayern Munich. 3 matchs, 3 défaites en une semaine. Ça n'arrive pas souvent. David Lartolari nous plongera dans les coulisses d'une crise bavaroise qui pourrait laisser des traces. On ira ensuite en Angleterre voir Philippe Auclair pour nous parler du projet de Newcastle dans le ventre mou de cette première ligue. Est-ce que le projet saoudien a du plomb dans l'aile ? On lui posera la question. Et on ira enfin voir Guillaume Maillard-Pacini en Italie pour nous parler du Napoli avant le duel face au Barça en Ligue des Champions. Le Napoli, est-il le pire champion sortant de Serie A de l'histoire ? Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et en prime vous aurez le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et on démarre ce Tour d'Europe avec la Ligue 1, Elton Mokolo. Comment ça va Elton en ce lundi matin ?
Bonjour Cyril, écoute, ça va bien. On a eu un week-end qui a été quand même très intéressant du côté de la Ligue 1. Beaucoup d'informations, y compris avec l'information du dimanche soir, à savoir l'Olympique de Marseille, qui n'arrive pas nécessairement à gagner en supériorité numérique.
On va en reparler longuement, évidemment, de l'Olympique de Marseille, puisque ce sera le thème principal de cette intervention dans le Tour d'Europe. Mais il y a eu un petit coup de cœur qu'on a depuis le début de saison finalement avec cette équipe lilloise de Fonseca, mais qui ressemble de plus en plus à un dauphin, surtout quand Jonathan David carbure autant. Elle peut aller jusqu'où cette équipe lilloise selon toi ?
Bon, aujourd'hui, pour moi, du côté de Lille, l'objectif doit être clairement un objectif assumé de la deuxième place parce qu'on voit les mauvaises formes de Nice, on voit les mauvaises formes de Monaco qui a encore perdu contre Toulouse. Ouais. Et par rapport à ça, on a dans l'idée que du côté de Lille, eh ben, y a une montée en puissance qui est caractérisée par Jonathan David, qui est maintenant sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1, ce qui n'était pas forcément concevable lors de la première partie de saison. Il était très souvent remplaçant. Et donc, le facteur David, plus le facteur collectif, à savoir une équipe qui grandit, qui prend de la confiance et qui, à domicile, est intraitable, tout ça laisse augurer de bonnes choses, et notamment cette deuxième place.
On peut s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu plus réguliers parce que c'est ce qui a manqué un petit peu à Lille par moment ou en tout cas un petit peu plus tueur. Ça a toujours été une équipe qui produisait du beau football mais qui parfois ne marquait pas alors qu'il devait marquer 4 buts et prenait un peu des buts inattendus. Il faut s'attendre en cette fin de saison à ce que ce soit une équipe plus mature peut-être ?
Exactement, notamment à l'extérieur. À l'extérieur où Lille sera particulièrement attendu face à des équipes moins classées parce qu'on a moins bien classé, parce qu'on sait que Lille est capable d'abandonner des points et donc forcément ça a un impact sur la fin de saison. Il n'y a qu'à revoir ce qui s'était passé en fin de saison dernière où tu lâches notamment la quatrième place sur la pelouse de Troyes qui était déjà reléguée. Donc c'est vrai que ça va être la marge de progression du côté de Lille. Être aussi bien impérial à domicile qu'à l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'à domicile, c'est un peu plus facile, mais à l'extérieur, il faut avoir un capital point qui te permettra d'arriver sur le podium. Mais quand on voit l'état, notamment de la Ligue 1 après le PSG, bah forcément, il y a des motifs d'espérer pour le LOSC.
On parlera sans doute en fin de saison de Fonseca, qui sera probablement nommé dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 1, parce que c'est vrai que son projet de jeu est clair, lisible et franchement séduisant. On aimerait pouvoir en dire autant pour l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso, Elton, battu dimanche soir à Brest, malgré une supériorité numérique de près d'une demi-heure, je crois. On s'était eu il y a quelques semaines déjà pour parler de Gattuso et se dire que finalement, s'il gérait mal les prochains virages, potentiellement on pourrait voir un OM avec un nouveau coach, le troisième cette saison. Est-ce que tu sais où va l'OM ?
Là, pour le coup, quand on parle de l'Olympique de Marseille, c'est plus dur la vie. On ne peut pas dire autre chose quand on regarde les résultats de l'Olympique de Marseille qui a remporté un match en 2024, c'était face à Thionville. Donc autant dire que ça situe le tableau quant aux performances marseillaises. Et on l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines, notamment sur l'avenir de Gennaro Gattuso. On y est. On y est clairement, à savoir que jeudi, ça va être le match témoin, à savoir s'il n'y a pas de qualification. Je ne vois pas comment Gennaro Gattuso pourrait rester entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que non, on serait sur une saison qui serait terminée. On aurait pu penser que sur cette semaine, avec la double confrontation contre le Shakhtar, le match contre Brest, ça aurait été l'occasion justement de relancer un peu la saison, mais il n'en est rien. Il y a quand même un match nul concédé dans les dernières minutes du côté d'Hambourg face au Shakhtar. Et là, on a une défaite face à Brest. Si tu veux, Cyril, mon sentiment, c'est que dès que l'Olympique de Marseille est en supériorité numérique, à aucun moment je les voyais capables de gagner ce match. C'est quand même fou parce que on peut penser qu'avoir une supériorité numérique te donne un avantage, mais ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux difficultés chroniques du côté marseillais à créer, à construire du jeu en camp adverse. Et quand on voit qu'en face, tu tombes sur une équipe qui est quand même très forte, notamment sur le plan collectif, en dépit du fait qu'ils étaient en infériorité numérique, et ben moi, je n'ai pas été surpris. D'ailleurs, quand on voit le but de Lesmelou, c'est la symbolique, à savoir que ça part d'une touche olympienne. Bon pressing brestois, Ulysse Garcia qui fait la faute, et derrière, Lesmelou qui marque. Donc, on voit bien qu'au niveau de la base collective, au niveau de l'assise collective, il y a une différence. C'est quand même fou de dire ça parce qu'on est au mois de février 2024. Il y a une différence, mais significative, entre Brest et l'Olympique de Marseille.
On a parlé tactique, beaucoup pressing. Puis il y a quelque chose qui semble caractériser cet OM, c'est le manque de leader, le manque d'âme. Gennaro Gattuso en a encore parlé dimanche soir. Gattuso, il devait aussi amener ça, c'est-à-dire que quand il arrive pour remplacer Marcelino, on ne se dit pas qu'on a Pep Guardiola qui débarque sur le banc, mais quand on connaît le passé du joueur, quand on connaît son passé aussi qu'entraîneur, on se dit qu'au moins il va pouvoir réveiller ce vestiaire. Et au final, quelques mois après, c'est encore pire que quand il est arrivé. On a l'impression d'avoir des joueurs démotivés qui ne savent pas trop ce qu'ils font dans ce projet-là. Comment tu expliques que cette équipe soit aussi perdue? Parce que finalement, c'est un petit peu ça l'impression que ça donne.
Gennaro Gattuso a tout essayé, Cyril, à savoir le côté copain, le côté père fouettard à travers les conférences de presse. Et pour moi, il y a une bascule après le match contre Metz où on sent Gennaro Gattuso résigné, à savoir un coach qui a tout essayé pour remettre l'Olympique de Marseille sur le bon chemin et qui n'y arrive pas. Et donc forcément, on parle d'un coach qui navigue à vue. Encore une fois, il te parle de détails pour parler de défaite. Il t'explique que personne n'écrase l'Olympique de Marseille dans le jeu, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ramener de la compétitivité et avoir une autorité naturelle sur cette équipe. Deux choses que Gattuso n'a pas apportées. Donc forcément, c'est une situation qui est très compliquée pour Gennaro Gattuso et qui va avoir un impact sur son avenir à très court terme.
Donc face au Shakhtar, pour toi, si l'OM ne se qualifie pas, c'en est fini de Gattuso?
Ah, pour moi, ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair, à savoir que si tu perds contre le Shakhtar, pour moi, il risque d'y avoir démobilisation du côté olympien parce que même l'Europe n'est plus assurée. Et quand je parle de l'Europe, je parle de Conference League. Donc, je pense que du côté de Pablo Longoria, il faudra prendre des décisions qui s'imposent et ça passe irrémédiablement par l'avenir de Gennaro Gattuso.
Il y a autre chose qui a fait parler dimanche du côté de l'Olympique de Marseille et qui ajoute un petit peu à ce panorama glauque, on va dire. C'est la sortie de Mehdi Benatia, le nouveau conseiller de Pablo Longoria, qui était agent il n'y a pas si longtemps que ça, et qui désormais accompagne le président marseillais, qui a désigné Jonathan Clauss comme coupable idéal, qui l'a simplement flingué, on va utiliser les termes, micro ouvert. Comment tu interprètes cette sortie un peu folle finalement, parce que un directeur sportif qui ne dit pas son nom, en tout cas un conseiller du président, ne devrait pas dire ça?
Ouais, c'est ça, un conseiller sportif ne devrait pas dire ça. On avait déjà eu une mise en bouche à travers le teaser et notamment les déclarations par rapport à Renan Lodi et le fait que voilà, il avait voulu partir très rapidement de l'Olympique de Marseille. Et là, on a eu l'apothéose avec la sortie sur Clauss. On avait déjà eu des éléments de langage à travers des interviews, enfin à travers un article dans le quotidien de l'équipe. Et là, ça s'est confirmé parce qu'on a deux déclarations à savoir dans le CFC et aussi et ensuite sur Prime
Sur Prime
Video.
Video, ouais, tout à
Et là,
fait.
ça décrit quoi? Ça décrit l'état mental du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir qu'on est sur un groupe qui est au bord de l'implosion. Et donc là, on a décidé quoi? On a décidé, entre guillemets, de s'épancher en public, de laver son linge sale en public. Et c'est pas forcément la meilleure des choses, parce qu'au moment, on aurait pu penser qu'il y aurait l'union sacrée, un sentiment d'unité qui viendrait du côté de l'Olympique de Marseille. C'est tout l'inverse. Alors je pense que Mehdi Benatia, il a voulu avoir un discours qui se voulait résolument cash par rapport à cette idée que l'Olympique de Marseille était plus important que le joueur, ce qui en soi est une démarche louable. Et il y a le fond, il y a surtout la forme. Et la forme, c'est pas forcément de s'exprimer, notamment au CFC ou et donc à Prime Video, en chargeant un joueur. Parce que là, quand il parle de deux joueurs qui avaient une mentalité, deux, trois joueurs qui ont une mentalité limite et qui donnent un nom, à
Ouais,
savoir
finalement, il n'y en a
celui
qu'un
de
seul qui est
Clauss,
cité.
c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc oui, pour le coup, c'était une interview, deux interviews qui étaient vraiment très particulières.
Est-ce que ça peut mettre le feu aussi au vestiaire marseillais? Voilà, quand on est un joueur comme Jonathan Clauss, pardon, qu'on se souvient ce qui s'est passé au mois de janvier et ce drama après sa fausse blessure face à Monaco, quand on voit ces déclarations-là, quand on considère que peut-être Jonathan Clauss reste l'une des seules valeurs sûres de cet effectif marseillais, on peut se dire non mais c'est pourquoi c'est moi qu'on vise et c'est quoi ce délire quoi? Est-ce que ça peut mettre le feu au vestiaire tout simplement?
Ah bah oui, aujourd'hui tout est ouvert, à savoir si l'Olympique de Marseille sort contre le Shakhtar, qu'est-ce qui nous empêche de pas penser que Jonathan Clauss ne
Ouais.
finirait pas la saison du côté de l'Olympique de Marseille, à partir du moment où on a évoqué des problèmes comportementaux avec l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, à savoir Gennaro Gattuso, bon, on dit ça se trouve, il sera plus là d'ici
Ce sera
quelques
plus
jours.
simple à résoudre.
Ça veut dire qu'il a dans le viseur. Donc tout est ouvert, notamment sur la situation à court terme de Clauss. Et c'est vrai que là, on est pour moi, et je le dis sans risque, on est sur les derniers mois, sur les dernières semaines de Jonathan Clauss avec l'Olympique de Marseille. Parce que je ne vois pas comment on peut se remettre de cette situation, sauf à avoir un changement radical de cap. Et les deux parties, ou plutôt les trois parties, avec l'entraîneur, la direction sportive et Jonathan Clauss qui trouvent un terrain d'entente.
Dernière petite question pour prendre un peu de hauteur et de recul. C'est un homme dont on a beaucoup parlé cette saison et qui est peut-être le principal responsable de ce fiasco. C'est évidemment Pablo Longoria, qui a donc fait venir Mehdi Benatia. Est-ce que ce duo sera à même de redéfinir un projet clair et lisible, autre que simplement faire de l'achat-vente dans le mercato, des tours de passe-passe comptable? Est-ce que tu penses que ce duo-là, et a fortiori Pablo Longoria, qui est le président marseillais, peut s'inscrire aussi dans la durée à Marseille, ou là aussi ça ressemble à une fin de cycle, ce qui se passe?
Pour moi, ça ressemble davantage à une fin de cycle. Il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Pablo Longoria. On ne peut pas occulter ce qui s'est passé en septembre dernier. Tout ça a une influence sur Pablo Longoria. Et moi, s'il y a 2 années de suite sans Ligue des Champions, on sait que la Ligue des Champions est un objectif très important pour l'Olympique de Marseille. Ça acte quoi? Ça acte une situation d'échec. Et je ne pense pas que Pablo Longoria va repartir une saison de plus. Donc, pour moi, on est encore sur eux. Bah, aussi bien sur l'équipe que sur la direction sportive, on est quand même sur des bases qui sont très fragiles. Et ça, c'est pas forcément la chose la plus rassurante. Et donc, Pablo Longoria, je ne vois pas comment il pourrait continuer. Après, il peut aussi se dire que il a un objectif, à savoir ramener l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions avant de pouvoir partir. Et même là, ça me paraît très compliqué, vu ce qui s'est passé tout au long de la saison. Là, pour le coup, sa politique globale a été fortement critiquée.
Dernier petit mot, parce que finalement, on est vite passé sur l'actualité du week-end, mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme actualité la semaine dernière autour du meilleur joueur de Ligue 1, à savoir Kylian Mbappé, qui quittera donc le Paris Saint-Germain. L'issue, elle est logique?
Oui, pour moi, l'issue, elle me paraît logique, compte tenu de ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines, à savoir qu'on parle d'un joueur qui, l'été dernier, avait été mis sur le côté par le PSG. Et donc, à partir du moment où il y avait eu 2 ans de contrat seulement avec le PSG à l'occasion de cette prolongation, moi, ça me paraissait logique que l'étape suivante de Kylian Mbappé soit dans un autre club. Parce que Kylian Mbappé, enfin, encore une fois, on parle d'informations qui sont officieuses, à
Ouais.
savoir Kylian Mbappé qui devrait quitter le PSG. On a une idée, comme l'a dit Konaté, de quel sera le prochain club de Kylian Mbappé. Pour moi, c'est une décision qui est logique. C'est une décision qui est logique parce que Kylian Mbappé a donné quand même 7 ans au PSG, ce qui n'est pas rien. On sait très bien qu'à l'ère du football moderne, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Des changements qui sont perpétuels. Et là, le fait d'avoir un Kylian Mbappé qui finit son cycle de 7 ans avant d'entamer de nouveaux défis, pour moi, c'est la chose la plus logique.
il faut pas s'attendre, on en a longuement parlé dans la FC Stream Team avec Julien Pereira vendredi dernier, mais faut pas s'attendre de sa part à un quelconque ralentissement de ses performances et un quelconque désengagement. C'est pas du tout le genre du bonhomme.
Non, on peut pas lui enlever ça, à savoir que Kylian Mbappé priorise la performance. On avait déjà eu un échantillon dès lors qu'il était sorti de ce fameux loft et qu'il avait été rapidement décisif, aussi bien face à Toulouse que face au RC Lens. S'il y a bien une personne qui est capable de faire abstraction fi de tout ça, c'est Kylian Mbappé. Je ne pense pas que ça aura un impact significatif à partir du moment où c'est lui qui a provoqué cette décision, qui aurait plutôt provoqué cette décision, à savoir quitter vraisemblablement le PSG. Donc je pense qu'il est capable de faire le distinguo, à savoir que l'année prochaine, il ne devrait pas être parisien, mais qu'à côté de ça, il y a une saison à finir avec quand même des objectifs. Revalider un titre de champion de France et aller loin en Ligue des Champions. Et il y a aussi le facteur Coupe de France où il y a quand même un quart de finale contre l'OGC Nice.
Et ben voilà pour ce gros point Ligue 1. Merci beaucoup Elton. On a parlé d'un club en crise, l'Olympique de Marseille. On va en parler d'un autre, le Bayern de Munich, puisque désormais on s'envole pour l'Allemagne. Et on arrive en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. David, on s'était vu lundi dernier pour parler de la défaite du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. On avait déjà parlé de Thomas Tuchel. On pensait que c'était déjà le point bas de la semaine bavaroise. Finalement, ce ne fut que le début, puisque cette semaine, le Bayern a enchaîné 3 défaites de rang. Je ne sais pas quand ça remonte la dernière fois, mais j'ai envie de dire presque à Mathusalem. Il y a eu cette défaite donc face à Leverkusen qui a fait très mal dans la course au titre. Il y a eu cette défaite face à la Lazio, embêtante, très embêtante, en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Et puis ce match un petit peu surréaliste face à Bochum dimanche, cette défaite 3-2. Qu'est-ce qui se passe au Bayern ?
Il se passe que nous, on rajeunit en tout cas, parce que c'est mai 2015, la dernière fois que le Bayern avait subi 3 défaites consécutives. 3 défaites dans une semaine, c'est inédit, c'est surréaliste effectivement. Des éléments d'explication, bien sûr. Alors, les torts sont partagés et c'est compliqué pour la presse, pour les observateurs, d'expliquer vraiment. Et je sens aussi qu'au Bayern, on est un peu désemparé par rapport à la situation. Des éléments d'explication, il y en a. D'abord, si on veut enjoliver un peu la situation, on va dire, voilà, ce match-là, on l'a très bien commencé. Côté Bayern, on a pris les choses par le bon bout, on a dominé, on s'est créé des occasions et Jamal Musiala a marqué un super but pour commencer.
Et Harry Kane a croqué une occasion énorme sur une passe de Musiala.
Oui, et le 2-0 aurait peut-être facilité les choses et ça aurait peut-être, en tout cas dans l'habitude qu'on a avec le Bayern, à 2-0 c'était plié, c'était réglé. Mais il n'y a pas eu ce 2-0 et à l'autre bout du match, à la fin, le Bayern a également bien terminé. A fait un bon dernier quart d'heure, a beaucoup poussé, a marqué un but à la fin aussi, Harry Kane justement, et on peut se raccrocher si on veut à ce début et à cette fin de match. Mais c'est bien sûr beaucoup trop peu parce qu'au milieu, il y a eu une bonne heure de vide, une bonne heure de manque individuel et collectif, et ça c'est bien plus difficile à expliquer. Les joueurs ont des responsabilités, Cyril, là-dedans, évidemment. Si on regarde les actions qui ont posé problème et qui ont occasionné les 3 buts de Bochum, le premier but, c'est une contre-attaque où Joshua Kimmich perd un duel important, où je crois que c'est Musiala qui perd le ballon aussi de manière, entre guillemets, superflue, et derrière, vous êtes puni. Le deuxième but de Bochum, sur corner, Matthijs de Ligt, est très très loin de Kevin Schlotterbeck qui marque de la tête au premier poteau.
Bochum qui était une des pires équipes sur corner cette saison en Bundesliga en plus.
Exact, erreur défensive individuelle assez impardonnable et assez inexplicable pour un club du standing du Bayern. On ne doit pas se permettre ce genre d'erreur. Et puis voilà, donc c'est du collectif, c'est de l'individuel, donc les joueurs ont des responsabilités. L'entraîneur a des responsabilités aussi, forcément, dans sa compo d'équipe. Dans l'attitude des joueurs qui n'ont pas l'air de tellement écouter ses consignes. Thomas Tuchel est reconnu et tout le monde le répète chaque semaine comme étant un excellent tacticien, technicien. Donc ça ne vient pas de ses compétences professionnelles, ça ne vient pas de ses compétences techniques, les soucis actuels. Il y a aussi la malchance, il faut quand même le dire. Alors est-ce que c'est 5%, 10%? Vous avez encore un blessé sur un match comme ça, Mazraoui, le fameux poste d'arrière droit où il manque tellement de monde, où Josip Stanisic est parti au Bayer Leverkusen, où on a vendu Benjamin Pavard, où Bounassar est blessé, Dayo Upamecano, Dépanne hier dans ce match-là, à ce poste d'arrière droit qui n'est pas son poste du tout. Donc il y a aussi cette partie-là. Et on essaie de se trouver quand même un peu des excuses avec tout cela. Et puis ce qu'on disait aussi la semaine dernière reste vrai, c'est-à-dire que est-ce que les dirigeants, Cyril, ont pris des bonnes décisions ces derniers mois, ces derniers temps? La question se pose. Le groupe du Bayern est limité. Le groupe du Bayern montre des manques à certains postes. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'on est un peu perdu. Léon Goretzka hier est venu s'exprimer devant nos confrères, devant les médias,
Ça
et il
ressemble à
s'est
un
montré
film d'horreur qui ne
un
s'arrête
film
pas.
d'horreur. Ouais, exactement. Il s'est montré assez désemparé. Et on se demande aujourd'hui quel ressort pourrait trouver le Bayern d'ici la fin de semaine et un match forcément très compliqué à venir contre le RB Leipzig qui a retrouvé des couleurs ce week-end en s'imposant en championnat. Ça ressemble effectivement à un trou, une crise, une vraie crise dont il va être compliqué de sortir. En tout cas, on imagine difficilement le Bayern retrouver des couleurs sur 90 minutes dès la semaine prochaine. Dès la fin de semaine, en tout cas en championnat, il y a un peu de temps pour se réveiller pour le match retour contre la Lazio, mais c'est une mauvaise période évidente pour les Bavarois.
Dans ce genre de crise, évidemment, tous les regards se tournent vers l'entraîneur. On a parlé Thomas Tuchel la semaine dernière, on va en reparler aujourd'hui. Est-ce que déjà, une petite question, parce que nous, en France, on connaît Thomas Tuchel quand il est en fin de cycle. On se souvient de son départ du Paris Saint-Germain où, voilà, quand on sentait que la fin arrivait, il avait des prises de position beaucoup trop libres pour un club comme le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ce Thomas Tuchel-là qu'on voit ou il est encore complètement combatif et complètement dans le projet?
Bah, ce qui est étonnant, c'est que ce qu'il exprime, c'est sur ses derniers matchs dans les conférences et au micro des confrères après match. Alors d'ailleurs, conférence, il n'y a pas participé hier soir. Le Bayern a renoncé à la conférence de presse avec la bonne excuse que le match ayant pris une bonne vingtaine de retards avec des interruptions diverses en raison des protestations des supporters par rapport à l'investissement qu'il pourrait y avoir dans la Ligue, le Bayern a zappé la conférence de presse et ils ont filé à Düsseldorf pour prendre l'avion en direction de la Bavière. Donc l'excuse était bonne, mais on essaye aussi peut-être d'échapper à certaines explications. Thomas Tuchel est désemparé et il a hier quand même, après le match, expliqué qu'il y avait de très bonnes choses à retenir. Très bonne entame de match, très bonne fin de match, et il a un peu enjolivé la situation. Ça a
Oui, il a
choqué
dit
quand
que
même
c'était
certains confrères.
la loi de Murphy et que, en gros, quand tout va mal, bah, fatalement, ça s'applique aussi au match, des occasions ratées, etc. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on disait dans le contenu, c'était plutôt séduisant par moment. Il n'empêche que bah, la semaine, on l'a dit, elle est noire. Trois matchs, trois défaites. Il va rester en place, c'est ce qui se dessine malgré tout.
Il va rester en place, mais le problème, c'est qu'il est en train de protéger ses joueurs, alors qu'on l'a expliqué à l'instant, il y a des joueurs qui ont des comportements problématiques sur des fautes individuelles, sur un comportement collectif. J'ai revu aussi une certaine séquence du match hier soir après la partie. Toute la partie entre la fin du premier quart d'heure et le début du dernier quart d'heure du match, vous avez des joueurs qui observent, qui sont des spectateurs de la rencontre et des joueurs qui devraient être, Cyril, des tauliers. On peut y revenir si on veut, il manque un axe dans cette équipe. Entre Manuel Neuer, le gardien, qui a retrouvé un très bon niveau, et Harry Kane, qui en est quand même à 25 buts en 22 matchs, c'est irréprochable. Entre les deux, il y a une espèce de flottement énorme, et ça, Thomas Tuchel ne le prend pas à bras-le-corps, ne le mentionne pas, et la façon qu'il a de protéger ses joueurs devient un peu problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne remettez pas en question le niveau de chacun entre chaque match, eh bien les problèmes se retrouvent d'une partie à l'autre. Et ça, Thomas Tuchel en est forcément un peu responsable. Effectivement, le président Dresden a dit hier, évidemment que Thomas Tuchel sera encore sur le banc le week-end prochain contre Leipzig, mais ça commence à faire un peu mauvais effet, et ça commence à faire un peu, ben on n'a pas de solution et on est à court d'explications. Et donc le Bayern ne semble pas, je répète, en mesure aujourd'hui de sortir de cette crise dans laquelle il s'est enfoncé.
Je vais te poser une question, mais c'est un parallèle. On parle souvent de la Mannschaft, on se dit qui sont les leaders dans cette équipe. On se disait que mentalement, bah, c'était peut-être parfois trop gentil, trop joueur. Il n'y a pas les gueulards qu'on a l'habitude de connaître. Bah, est-ce que l'analogie est aussi vraie pour le Bayern Munich? On a vu Thomas Müller jouer hier et d'ailleurs s'énerver très très fort après l'occasion ratée d'Harry Kane parce qu'il était en position pour recevoir le ballon. Mais est-ce qu'il est toujours aussi influent que par le passé dans le vestiaire bavarois? Et voilà, est-ce que les Kimmich, Goretzka, ont autant de poids qu'ont pu avoir les idoles passées bavaroises.
Alors, il faut faire attention avec la comparaison avec l'équipe nationale. C'est vrai qu'historiquement, il y a toujours un axe fort Bayern dans l'équipe nationale. Et quand il y a un axe fort Bayern qui performe au Bayern, ça performe en équipe nationale. Ça, c'est vrai. Néanmoins, Julian Nagelsmann a quand même des solutions qui se dessinent au cours de la saison-là. Notamment, on va en citer un, on en reparlera peut-être au fil de ce printemps qui arrive. Il y a des solutions qui se dessinent, notamment Denis Undav, qui est en train de performer comme avant-centre aux côtés de Guirassy avec Stuttgart, qui sera une solution pour Nagelsmann pour donner du vent frais, un air frais au cœur de la Mannschaft. Au Bayern, oui, c'est le souci principal actuellement. C'est-à-dire que la grande question qui va se poser, soyons simples et synthétiques, vis-à-vis du Bayern dans les prochains mois, ça va être: est-ce qu'on balaye tout et on repart sur une nouvelle histoire? Ou est-ce qu'on fait confiance aux joueurs qui nous ont apporté les titres? Est-ce que les Kimmich, les Goretzka, les Gnabry, les Alphonso Davies et quelques autres doivent être prolongés, doivent être renforcés? Et est-ce qu'on doit s'appuyer sur eux pour l'avenir proche? Ou est-ce qu'à l'inverse, on décide de les laisser partir, de répondre aux offres qui pourraient venir de clubs étrangers notamment, pour les joueurs que je viens de citer, et on repart avec des nouveaux, avec un nouveau directeur sportif qui arrive, on le mentionnait la semaine dernière, Max Eberl, qui va arriver là au printemps et qui va donc amener de nouveaux joueurs peut-être, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités de recrutement. Le Bayern est entre les deux aujourd'hui et une décision douloureuse va devoir être prise. Est-ce qu'on continue avec les mêmes, on leur fait confiance et on se dit on joue sur la continuité? Pourquoi pas, après tout, c'est un choix possible. Ou alors, est-ce qu'on balaye beaucoup, beaucoup de entre guillemets, tauliers des dernières années, qui ont remporté effectivement, pour certains, 11 titres consécutifs? Müller et Neuer font partie de cela. Et est-ce qu'on repart sur d'autres joueurs plus jeunes, plus frais, avec l'incertitude de la compétitivité? Ça va être une grande, grande question pour le printemps et pour l'été qui arrive, Cyril.
Eh ben merci beaucoup David, on le comprend, le Bayern Munich est à la croisée des chemins, donc on suivra tout ça évidemment dans Tour d'Europe dans les semaines qui viennent. On va quitter l'Allemagne et on va aller voir un autre club à la croisée des chemins puisqu'on va parler de Newcastle avec Philippe Auclair. Nous voici donc en Angleterre avec Philippe Auclair, notre spécialiste de Premier League qui, comme tous les lundis, a sa cup of tea sous la main. Comment ça va, Philippe?
Pas trop mal, et la cup of tea est là. Blanche aujourd'hui, c'est pas celle avec les petits
Ah
chatons
oui, j'ai vu qu'il
d'habitude.
y a eu du changement, tout en
Il y a eu du
sobriété
changement.
finalement.
Je te rassure tout de suite, là, les petits chatons ne sont pas cassés. Hein. Là,
D'accord.
c'est parfait, c'est juste un remplacement. C'est juste un remplacement, tu vois, de fin de
Poste pour
match, tu
poste,
vois. Oui. 4-0, 89e minute, et ça, tout ira bien pour la prochaine rencontre.
On l'attend lundi prochain donc en tant que titulaire.
Absolument.
Alors, week-end finalement assez lisible en Première Ligue, pas énormément de changements, Liverpool, Arsenal, seulement ce petit accro de Manchester City face à Chelsea, et une équipe de Chelsea qui souffle le chaud et le froid. La semaine dernière, on en parlait dans des termes peu élogieux. Cette semaine, c'était plutôt très intéressant face à City.
Ouais, c'était, on souffle même, je dirais, le brûlant et le
Ouais.
glacial, tellement c'est le contraste est absolument invraisemblable. Quand on voit la première mi-temps que fait Chelsea contre Manchester City, où très honnêtement, ils ont d'autres occasions que celle qui finalement va mener au but de Raheem Sterling, qui d'autres, bien évidemment, pour marquer contre Manchester City. Mais je pense que d'un côté, je pense que Pochettino, d'ailleurs, quand on l'entendait après la rencontre, il était aux anges, il buvait du petit lait. On parlait de chatons, ben lui, il buvait du petit lait. Il avait vu une performance défensive qui était très largement supérieure à ce qu'on avait vu les semaines précédentes, beaucoup de concentration. Des joueurs qui étaient un petit peu, on va dire, un petit peu chahutés, on va dire, en défense, cette fois-ci se sont retrouvés. On a vu un bon Caicedo, on a vu un bon Jackson, même s'il a vendangé une occasion, mais il est sur le but, il est absolument, ce qui fait absolument formidable. Palmer qui confirme ce qu'on en avait dit, hein, Cyril, c'est un tout bon ce jeune joueur. Et puis Raheem Sterling, de retour dans l'équipe et qui fait du bien. Et franchement, bon, on va dire, ils ont eu quand même pas mal de chance au bout du compte, parce que le nombre d'occasions que rate Erling Haaland, c'est quand même assez extraordinaire, dont
Ça
une
arrivera pas
tête.
tout le temps cette saison, hein.
Ah non, 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 non. Je crois, il y a notamment la tête où il est plein axe, le ballon qui arrive, il est tout seul, il est à 4 mètres du but, il trouve le moyen de louper la cible, ou plutôt de ne pas tromper Petrovic. Et je pense pas en effet que Haaland aura beaucoup d'après-midi ou de soirées comme celle-là. Mais bon, Chelsea a s'en profiter. Donc je dirais que c'est bon signe pour Pochettino. De toute façon, on le sent que pour lui, c'est une saison un petit peu. Ben voilà, c'est une saison tremplin, c'est une saison de transition. Ils vont pas descendre, ils vont pas être en Europe. Donc, il identifie un groupe. Il y a des semaines où ça passe pas du tout. la semaine passée, puis il y a des semaines où c'est très prometteur, comme c'était le cas celle-ci.
Alors, tu as parlé d'Europe. Il y a une équipe qui. On pensait aller s'habituer justement à se qualifier en Ligue des Champions chaque année, qui a démarré un projet, mais dont le projet semble un petit peu à l'arrêt, c'est Newcastle. Et on va parler des Magpies qui ont été tenus en échec de partout ce week-end face à Bournemouth. Ils sont 8e de Première Ligue, assez loin de ce top 5 dont on a déjà beaucoup parlé dans Tour d'Europe, éliminés de toute compétition européenne après ce groupe très compliqué en Ligue des Champions.
Ils avaient pourtant bien très très bien entamé,
ouais,
je veux dire, souvenons-nous. Oui.
Tout à fait. Et cette question de savoir un petit peu où va ce projet finalement saoudien, est-ce que ça a du plomb dans l'aile? Peut-être commençons par là.
Au niveau sur le terrain, oui, il y a des problèmes parce qu'en plus de ça, bon, c'est 4 matchs sans défaite pour Newcastle, mais quand on regarde un petit peu plus près les adversaires et les résultats, c'est pas grandiose. Les 2 matchs nuls à domicile contre Luton Town, c'est incroyable, 4-4. Et puis là, 2-2 contre Bournemouth, c'est bien payé au passage, hein, parce que Bournemouth, bon, qui fait une très très belle saison, hein, on est bien d'accord là-dessus, un petit peu l'une des belles surprises de la saison, leur a donné d'énormes problèmes. On pense également à cette terrible série qu'ils ont eue fin décembre, début du mois de janvier, pardon, avec 4 défaites consécutives qui ont complètement plombé leur saison. Voilà, bon, c'est vrai. Alors il y a quand même des circonstances atténuantes, en ce sens qu'il y a beaucoup d'absents sur blessures. Mais je dirais que ça, en soi, c'est déjà très révélateur. À savoir que l'impact de ces blessures sur les performances de l'équipe montre à quel point ce groupe n'est pas encore un groupe capable d'être un challenger pour le titre ou pour une vraie belle campagne en Ligue des Champions. Des exploits, oui, comme la victoire contre le PSG et puis les sueurs froides données également au PSG lors du match retour en phase de poule, souviens-toi. Hein. Mais à côté de ça, c'est vrai que lorsqu'il manque des joueurs comme Callum Wilson, comme Joe Linton, on voit tout de suite la différence. Ce qu'il y a derrière, malgré la bonne volonté, n'est pas au niveau. Et du coup, ça fait se poser des questions quand même sur la façon dont les Saoudiens s'impliquent dans ce club. Parce que tu compares ce qui s'est passé la première saison après l'arrivée de Eddie Howe, où il y a pratiquement, où il y a plus de 200 millions d'euros de dépenses nettes, ce qui à l'époque avait fait de Newcastle le club le plus dépensier du monde, du monde, sur une année calendaire. Et puis les choses se sont vraiment beaucoup calmées depuis. Tu regardes qui ils ont recruté. Alors je regarde, j'ai pris ma liste parce que je me dis, mais j'oublie, je t'ai oublié quelqu'un. Et puis en fait, non, j'oublie personne parce que les joueurs qui ont été transférés en début de saison. Alors d'abord, il y a eu le coup dur de Sandro Tonali, qui devait quand même faire beaucoup
évidemment
de bien à leur milieu de terrain. Et puis on sait qu'il est suspendu pour avoir parié sur des matchs de son équipe lorsqu'il était en Italie. Au passage, merci beaucoup de la part de Newcastle à Milan pour ne pas avoir signalé ça lors des négociations. Mais enfin bref, Harvey Barnes, on le voit très très peu, qui est arrivé de Leicester. Le petit Tino Livramento qui est arrivé de Southampton fait du bon boulot et c'est vrai, même Southgate est venu le regarder, voir si jamais par hasard il pourrait pas être une solution au poste d'arrière droit. Mais à côté de ça, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne vois pas le même effort qui a été produit et qu'à côté de ça, on a même parlé. Alors, c'est pour des raisons de fair-play financier parce qu'ils ont été un petit peu trop forts la première année. Pour des raisons de fair-play financier, on a même parlé du départ possible de Bruno Guimaraes. Ce qui paraît invraisemblable. Ce qui paraît invraisemblable parce que c'est un joueur, on a parlé également d'un départ d'Almiron. On parle de 2 joueurs qui sont des piliers absolus de cette équipe. Mais tu sens que cette année, au début, je pense qu'ils l'ont prise très sérieusement. Bien évidemment, les performances, le match nul contre Milan en Ligue des Champions, la victoire contre le PSG, on s'est dit, bon, c'est en train de prendre, c'est bien. En championnat, bon, c'était pas génial, génial, mais en tout cas, ils étaient dans le coup. Et puis tout d'un coup, les blessures qui montrent encore une fois que le groupe n'est pas à la hauteur du groupe d'un Manchester City ou d'un Liverpool qui, au passage, perd Jota, perd peut-être Darwin Núñez, mais trouve quand même le moyen de gagner hein, en récupérant ça là. Mais bon, tu as l'impression quand même qu'il y a au moins une pause dans cette progression.
Mais justement, je vais te lire une déclat de Eddie Howe qui parlait début février, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que le fair play financier va limiter nos progrès, cela prendra plus de 3 ou 4 ans pour être l'équipe que tout le monde voudrait que l'on soit. Est-ce que ce qui s'est passé avec Everton et aussi avec Manchester United sous le coup de 131 infractions, c'est ça Manchester
115.
City, 115 infractions, voilà, bon, à force, on perd le compte.
Et Nottingham Forest,
aussi.
Ne pas oublier.
Est-ce que ça fait très très peur peut-être aux Saoudiens et peut-être que le plan de développement qu'ils avaient prévu est ralenti par ces risques-là?
Oui, absolument. Et
D'accord.
ça te fait pour moi absolument aucun doute. Et il y a une autre chose qui vient s'ajouter à ça, c'est que la Première Ligue a finalement fait passer une nouvelle résolution qui va empêcher les clubs de surévaluer les contrats de partenariat signés avec des entreprises qui leur sont liées, qui sont liées aux propriétaires.
Oula.
Quel est le seul club à avoir voté contre ça? Manchester City. Mais Newcastle, qui Dieu sait qu'ils ont des relations avec, économiques avec beaucoup d'entreprises saoudiennes, ils ont voté en faveur, apparemment, de cette mesure. Donc ça également, c'est un problème, c'est un frein également à l'expansion. Ils ont été très très forts pour commencer. Ensuite, de quoi, quand ils ont fait leur compte, ils se sont rendus compte, attention les gars, la première ligue est beaucoup plus stricte que ce que l'on pensait, donc on se calme. On ne va pas taper dans ce mercato hivernal en particulier. Alors par contre, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un gros effort qui soit consenti pendant l'été.
D'accord.
Et quand j'entends, tu vois, la déclaration que tu cites de Eddie Howe, 3-4 ans, la question que je me pose, c'est Eddie, est-ce que tu seras encore là dans 3-4 ans ou est-ce que tu seras encore là dans 6 mois?
Y a une question parce que qui dit fair play financier dit balance. Tu as parlé
Oui.
d'un joueur qui est notamment convoité par le Paris Saint-Germain et ça nous intéresse en premier lieu en France. Est-ce que par exemple Newcastle pourrait être fortement incité à vendre Bruno Guimaraes l'été prochain de manière à rentrer un petit peu dans les clous?
Complètement, dans la mesure où, si tu vois quel est un petit peu le tarif pour des milieux défensifs de ce type-là, c'est un milieu défensif vraiment de qualité, de classe internationale, tu parles Enzo Fernandez, tu parles Declan Rice, donc tu parles 100 millions. Et en plus, tu parles vendre au PSG, tu peux vendre cher au PSG. Un joueur qui est jeune,
Qui est brésilien.
qui est brésilien, qui a une expérience, bon, la Ligue 1, je pense qu'il connaît,
Un petit
il
peu.
maîtrise un petit peu, oui. Il est en train d'exploser. Oui, il explose avec son club, avec la sélection. Il explose partout. Donc, je pense qu'en effet, c'est tout à fait une possibilité et que ça permet de remettre un petit peu dans les clous parce que le problème, c'est qu'il y a des absences qui sont des absences à long terme et qui sont des absences inquiétantes. Je pense Callum Wilson en particulier, il s'arrache les cheveux en se demandant ce qui ne va pas, quoi. C'est un problème au niveau des muscles de la poitrine apparemment et qui n'arrive pas à résorber. En effet, cet été, il va y avoir énormément de mouvements sur le Tyneside, mais des mouvements peut-être dans les deux sens. Parce que on s'attendait également à ce qu'il y ait des mouvements qui viennent peut-être de clubs saoudiens. On pensait à Ruben
Tout à
Neves, par
fait.
exemple, venant peut-être pallier certaines déficiences dans le milieu de terrain. Ça ne s'est pas passé parce que je crois qu'ils sont très très conscients de la façon dont les médias auraient pris ça. Et ça ne se serait pas très très bien passé, c'est comme ça qu'on le dira. Mais ils vont rebondir pendant l'été. Mais là, cette saison, tu as l'impression qu'il s'agit d'une saison, un peu une saison blanche, dans la mesure où ils ne participent plus à aucune compétition. Je dirais pas qu'ils vont terminer en roue libre, parce que c'est impossible de terminer en roue libre lorsque tu joues à St. James Park. Le public ne te permettra pas de faire ça. Mais l'espoir de se qualifier pour une compétition européenne s'éloigne de plus en plus. Peut-être la Conference League au maximum. Il n'y a aucun danger de relégation. Bon, alors on continue. C'est un petit peu le train-train. Et le problème, c'est que pour Eddie Howe, c'est également un sérieux coup. C'est un coup dur parce qu'il était là pour accompagner le club dans sa progression. Il a fait du très très bon travail depuis son arrivée. Bon, largement aidé par les investissements consentis par les Saoudiens. Mais là, ça plafonne. Et ça fait pas moindre doute que Newcastle, vu leurs ambitions, il y a bien un moment où ils vont se tourner vers un entraîneur à qui ils n'auront absolument aucun scrupule à donner les clés de la caisse, si tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr. Dernière petite question sur la perception générale en Angleterre. Tu as parlé d'une équipe qui allait terminer un petit peu dans un train-train. Ce constat s'applique à Chelsea, dont on a aussi parlé.
Oui.
Est-ce qu'il y a un petit peu de satisfaction peut-être des suiveurs anglais un peu traditionnels de se dire que ces projets-là, montés de toutes pièces et qui sont vraiment récents, finalement, n'ont pas trouvé la recette miracle et que la Première Ligue, ça se respecte, ça se mérite et ça s'apprend.
Certainement.
Est-ce que c'est une tonalité qui existe en Angleterre et on se réjouit presque du malheur de ces deux clubs, enfin du malheur très relatif de ces deux
Dans
clubs-là?
certains quartiers, oui, absolument, bien évidemment. Même si je pense que ce côté, ce qu'on appelle Schadenfreude, le plaisir que l'on prend au malheur des autres, qui est un mot allemand mais qui est courant en langue anglaise, c'est plus pour Chelsea que pour Newcastle. Parce que
D'accord.
Newcastle, tout le monde sait que ce projet saoudien, c'est un projet sur la durée. Ils ont montré au début qu'ils savaient comment s'occuper d'un club au niveau sportif. Par contre, je t'avouerai qu'on fait beaucoup de gorge chaude sur le projet de Todd Boehly et de Clearlake et que ça en fait rigoler énormément. À savoir que de voir Boehly arriver et dire on va tout écraser sur notre passage et puis de les voir maintenant, quoi, dixième du
Ouais.
classement. Alors, bon, ils ont une finale de Cup à disputer, hein, donc c'est pas une saison complètement pourrie. Mais enfin, après avoir dépensé 1 milliard d'euros en nouveaux joueurs, on va dire que le retour sur investissement n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'espérait le milliardaire américain.
C'est
Et que
joliment
ça fait un petit
dit.
peu, ça fait sourire.
Oui, ça
Oui,
fait
c'est vrai.
sourire. On ne dira pas si ça te fait sourire, mais en tout
Mais
cas,
t'as qu'à me
voilà,
regarder.
exactement. Il faut regarder la caméra pour s'en rendre compte. Eh ben, merci beaucoup, Philippe, pour ce point. J'allais dire saoudien, mais non, pas du tout. Ce point anglais et sur
Oui.
Newcastle et les Magpies, on va terminer notre tour d'Europe par un détour par l'Italie pour parler du Napoli. Je lui ai dit hors antenne, donc je dois vous faire une confidence. Quand Guillaume Maillard-Pacini termine Tour d'Europe, j'ai l'impression de terminer avec un tiramisu fondant, léger, goûteux. C'est un plaisir de se retrouver donc en Italie. Comment ça va, mon Guillaume?
Eh ben écoute, avec cette intro, ça va encore mieux, mon cher Cyril. Et toi, comment vas-tu?
Écoute, ça va. Je crois savoir que ce week-end, il y a eu beaucoup d'actu en Italie, mais qu'on a un Français, encore lui, qui a brillé, Marcus Thuram, qui de plus en plus prend l'étoffe d'un joueur qui ressemble à un titulaire potentiel avec l'équipe de France.
Écoute, ce sera Didier Deschamps de décider. Tout
Ouais.
ce que je peux te dire, Cyril, c'est qu'en Serie A, depuis son arrivée, honnêtement, on avait déjà parlé hein, dans le Tour d'Europe, mais là, il a marqué son 10e but face à la Salernitana un vendredi dernier. Victoire facile de l'Inter 4-0 qui s'envole vers son 20e Scudetto. Mais c'est vrai que Marcus Thuram, il est arrivé l'été dernier et personne n'aurait pu imaginer cet impact-là. 10 buts, 10 passes dans le championnat. La Ligue des Champions arrive face à l'Atlético mardi soir. Mais vraiment, son impact est impressionnant et il aura joué un rôle de protagoniste dans ce 20e titre qui s'approche pour l'Inter. Donc Marcus Thuram, une très très bonne nouvelle en vue de l'Euro 2024 pour Didier Deschamps et pour les Bleus.
Alors, nous sommes réunis pour parler d'un club dont on a déjà pas mal parlé finalement cette saison dans le Tour d'Europe, c'est le Napoli. Rudy Garcia n'est plus là, mais le pauvre Walter Mazzarri est toujours dans la même galère. Le Napoli est 9e de Serie A. Est-ce qu'on a déjà vu un champion sortant aussi faible?
Jamais. Jamais, c'est 27 points de retard sur l'Inter. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Serie. On a déjà eu, hein. Même récemment, rappelle-toi, l'AC Milan qui gagne le titre en 2020-2022, qui l'année d'après finit justement très loin du Napoli, champion d'Italie. Et cette saison rebelote avec le Napoli face à l'Inter. Et vraiment, on est sur un champion d'Italie, le pire champion d'Italie de l'histoire, du moins dans sa défense. Du titre parce que la saison de Scudetto, évidemment, le Napoli de Spalletti avait été incroyable. Et cette saison, voilà, l'arrivée de Rudy Garcia n'est pas très bien passée. Walter Mazzarri, c'était un retour aux sources, ça s'est encore plus mal passé. Et Cyril, à l'heure où on parle, je ne peux même pas te dire qui sera sur le banc face au
Ouais,
Barça.
y a un petit
Parce,
imbroglio.
ouais, parce que selon les dernières rumeurs, notamment des sources sérieuses, hein, notamment Sky Italy, qui annonce que Walter Mazzarri pourrait débarquer dans les prochaines heures. Donc, c'est te dire l'incertitude règne à Naples, où le club est actuellement 9e, où il est assez loin de la zone de la Ligue des Champions pour se qualifier pour la saison prochaine. Donc, on est vraiment sur une saison cataclysmique pour Naples que personne n'aurait pu imaginer. On s'en doutait un peu quand Spalletti est parti que. Voilà, ça va être compliqué de surfer sur la même vague de jeux, de résultats que la saison dernière où vraiment tout avait marché pour le Napoli. Mais cette saison, c'est vrai que tout part à l'envers. Et notamment, on va parler avec un Victor Osimhen qui est un peu aussi au cœur des débats du côté de Naples.
Ouais, avant d'évoquer son cas sur l'aspect collectif, peut-être parce que on l'avait dit au moment où Rudy Garcia avait été débarqué que finalement il était un petit peu tombé dans un traquenard. C'était vraiment pas une mission facile que de succéder à Spalletti et de prendre en charge cette équipe du Napoli. Malgré tout, on a l'impression que le miracle de l'an passé n'a rien lancé en termes de cycle, c'est-à-dire que bah on peut s'attendre à un départ d'Osimhen en fin de saison, peut-être à un départ de Xvara aussi. Kim Jae est déjà parti l'été dernier du côté de Bayern. On a l'impression que en gros ça restera un one shot. Ce sera une très belle histoire qu'on racontera dans 10 ans, mais que le club n'a absolument pas grandi avec ce nouveau titre.
Alors tu sais, c'est ouvrir des cycles à Naples, c'est pas très évident parce que tu sais, c'est un club qui a gagné que 3 scudetti dans son histoire, donc c'est quelque chose qui est assez difficile parce que l'environnement napolitain, tu le connais, il est assez dur, il est assez comment dire, assez pointilleux,
explosif,
exactement explosif, on va dire. Mais c'est vrai que tu l'as dit, tu as cité les noms, voilà, qui devraient quand même partir. Alors Guevara, on ne sait pas trop parce qu'il y a une prolongation qui négocie, qui est en cours, mais c'est vrai qu'Osimhen, on sait qu'il va partir l'été prochain et on va en parler. Mais c'est vrai que ce qui nous avait mis la puce à l'oreille en Italie, c'est surtout le départ de Spalletti, où lui avait justifié de la fatigue. Et c'est vrai que voilà, gagner un titre à Naples, c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, est assez éphémère. Donc lui, il a voulu rester sur une bonne note parce que Spalletti, c'est quelqu'un de très intelligent et il savait la difficulté
que c'est de
gagner un scudetto à Naples et d'en gagner deux. Je ne laisse même pas imaginer. Donc Spalletti a préféré dire bon, moi, je m'en vais sur une bonne note. Et surtout, Cyril aussi, il y a un président qui est très encombrant. Rudy Garcia pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai que Aurelio De Laurentiis, qui a fait une conférence de presse la semaine dernière d'une heure et demie, où il arrive tout seul devant les journalistes, alors avec ses dirigeants sur le côté, mais il n'y a que lui qui a parlé. Où voilà, c'est un peu le cow-boy, c'est un peu le shérif, c'est lui qui gère toutes les affaires du Napoli, c'est lui qui décide. On le sait que Rudy Garcia est arrivé à la fin du cycle Garcia, qui a duré pas longtemps, mais c'est lui qui signait tous les jours à l'entraînement, supervisait, qui défilait dans le vestiaire pour donner la compo ou pour s'en prendre à son entraîneur. Donc voilà, Spalletti savait aussi qu'avec un président comme ça, c'est difficile de commencer un cycle. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment quand même de se dire on a vécu quelque chose d'incroyable et d'inimaginable, tellement c'était beau l'année dernière à Naples. Et c'est vrai que là, alors, c'est un peu aux extrêmes. Hein. C'était beau, et là, entre guillemets, vulgairement, tout est moche.
Ouais.
On va dire qu'il y a un juste milieu, mais c'est certain que pour ouvrir un cycle à Naples, c'est très compliqué, et ce n'est pas maintenant que ça va être le cas.
Il y a donc un joueur qu'on surveille de plus près désormais au Paris Saint-Germain depuis que Kylian Mbappé a acté son départ en fin de saison, c'est Victor Osimhen, déjà pisté de longue date par le Paris Saint-Germain. On sait que Luis Campos était celui qui l'avait révélé du côté, enfin qui l'avait en tout cas recruté à Lille où il s'était révélé. Qu'est-ce que ça vaut sa saison actuelle ? Parce qu'on se souvient que la saison passée, il marchait sur l'eau, un monstre en termes de pressing, de harcèlement des défenses, un excellent buteur. Ouais. Là, il y a eu la canne entre-temps, mais on sent que tout n'est pas aligné. Et on se souvient aussi de l'épisode de TikTok du Napoli en début de saison. Voilà, on en est où de Victor Osimhen ? Ça vaut quoi aujourd'hui en février 2024 ?
Écoute, déjà, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en Italie, la piste du PSG, elle est concrète. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Le président De Laurentiis avait confirmé que c'est un club qui, tu le sais, est très intéressé par Osimhen. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Je ne serais pas du tout étonné que le PSG lève sa clause de 130 millions d'euros l'été prochain pour remplacer.
Donc, c'est 130 Mbappé sur... La clause, elle est à 130.
Elle est à 130. Et sur ce que ça vaut, Cyril, écoute, Osimhen, c'est un joueur exceptionnel. Là, tu n'as pas beaucoup de doutes. Après, c'est certain que sa saison actuelle, il faut aussi la mettre en relief avec celle collective du Napoli où c'est compliqué d'émerger dans ce contexte-là. Tu l'as dit, la CAN, donc il est parti avec le Nigeria jusqu'en finale.
Ouais.
Il y a eu une polémique quand même sur son retour et ça symbolise aussi un peu pour moi la saison du Napoli, celle d'Osimhen. C'est-à-dire que après la finale, Osimhen est attendu jeudi matin à Naples pour disputer le match face au Genoa samedi. Osimhen a raté une correspondance. Il est arrivé jeudi soir. Donc, tu vois, ça en dit quand même sur l'implication des joueurs du Napoli qui sont un peu détachés de tout ça. Osimhen le premier. Donc, il fait quand même une saison plutôt correcte à Naples. Mais voilà, on sent que pour lui aussi, il a des envies d'ailleurs. Il est aussi un peu nerveux. On retrouve un peu l'Osimhen d'avant-titre où voilà, il est un peu nerveux sur le terrain. Mais ça reste un buteur incroyable. Ça reste un joueur de surface. Ça reste un joueur qui sait tout faire. On l'a vu avec le Nigeria aussi à la CAN. Hein. Il a fait plutôt une belle CAN avec les Super Eagles. Donc, honnêtement, Osimhen, si le PSG venait à le prendre, pour moi, ce serait vraiment un très, très, très gros coup. Après, sur la saison du Napoli, voilà, il faut le mettre dans ce collectif qui est complètement perdu, l'instabilité d'entraîneur. Là, il est revenu de la CAN, il va falloir le temps qu'il se remette dedans. Il y a le Barça qui arrive pour lui. Voilà, il s'est économisé aussi pour ce match-là, Cyril. Hein, le Barça, forcément, sur les papiers, un huitième de finale de C1 pour un joueur comme Osimhen. Voilà, c'est certainement plus excitant qu'un match face au Genoa un samedi côté neuvième de Serie A. Donc, ouais, pour moi, il y a aussi une gestion d'économie avec Osimhen. On sait qu'il a prolongé, tu l'as dit récemment avec Naples, mais c'est une prolongation pour le vendre l'été prochain. Tout le monde le sait, Osimhen l'a dit. De Laurentiis l'a confirmé. Et honnêtement, voilà, sauf si la Première Ligue s'intéresse vraiment à lui, parce qu'on sait qu'il a des rêves un peu de partir en Angleterre. Mais pour moi, le PSG aujourd'hui en pole position et voilà, ce serait plutôt un très bon coup pour Paris, malgré la saison, on va dire, en demi-teinte pour Osimhen. C'est pas mauvais, c'est pas excellent. Voilà, c'est une saison correcte pour Osimhen à Naples aujourd'hui.
Ben je ne sais pas si Victor Osimhen est réellement désinvesti, mais toi, Guillaume, tu fais partie de notre projet collectif plus que jamais dans Tour d'Europe. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. On surveillera évidemment la prestation du Napoli mercredi face au Barça. J'en profite pour vous rappeler que tous ces matchs et tous les débriefs de ces matchs sont à retrouver sur eurosport.fr cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.